Voilà, j'aimerais simplement prendre quelques minutes là pour partager vraiment avec vous. Je sais que pendant plusieurs mois, vous avez eu la grâce, la belle opportunité, même je dirais de très belles opportunités, d'être au bénéfice de ces prédications sur les relations les uns avec les autres. Ce n'est pas une chose facile, mais c'est une chose possible. Moi, ce soir, j'aimerais simplement voir avec vous, ou du moins parler rapidement de ce Dieu qui est un Père. Ce n'est peut-être pas facile pour quelqu'un ce soir. Pour ma part, je sais que j'ai eu un Père jusqu'à l'âge de 7 ans. Et puis, j'ai pas compris ce qui s'est passé du haut de mes 7 ans. Parce que, bien évidemment, mon père est décédé quand j'avais cet âge. Et donc, quelquefois, lorsque nous avons connu une situation comme la mienne, une situation de toute autre nature, mais nous ayant privés de ce père, lorsque nous nous approchons de Dieu, nous avons du mal à réaliser que ce Dieu-là est un père. Parce que nous avons cette image faussée du papa naturel que nous avons eu, qui n'a peut-être pas assumé sa responsabilité de père, ou qui l'a peut-être assumé mais très mal. Et nous avons cette image de ce père naturel, de ce père biologique, de ce père tuteur, et nous avons du mal à nous en débarrasser, au point que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous rencontrons, nous faisons l'expérience avec Dieu, nous avons du mal à accepter Dieu comme un père. On va plutôt facilement s'arrêter à le considérer comme étant le Seigneur, comme étant Dieu, parce que Dieu, c'est quelque chose de lointain finalement. Le Seigneur, c'est quelqu'un de lointain. Dieu, c'est quelqu'un de lointain. Alors que le Père, c'est quelqu'un qui nous est proche. C'est quelqu'un avec qui on a une relation. Et ce soir, j'ai dit, Dieu mon Père, cette image vous parle à chacun, à chacune. C'est une image qui traduit une relation de confiance entre cette ombre gigantesque représentée ici par le Père et cette petite ombrelle qui est là au-dessus, représentée ici par les enfants de Dieu que nous sommes, chacune et chacun. Dieu est venu dans la personne de Jésus se révéler à nous comme étant un Père. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un Père a la responsabilité d'avoir une relation de confiance avec ses enfants pour que, bien évidemment, ses enfants puissent grandir dans un univers harmonieux, dans un univers où règne l'amour, où règne, bien évidemment, la confiance. Dieu, mon Père. Nous sommes appelés à avoir une relation avec ce Dieu qui est notre Père. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble un texte dans l'évangile de Jean. Voici ce que Jean dit, qui a assisté bien évidemment à un échange que Jésus avait eu avec des hommes qui étaient appelés sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection de mort. Ensuite, qu'il a eu avec un scribe. C'était des hommes qui étaient chargés, voilà, de recopier les écritures, d'écrire, de conserver les écritures et aussi de les enseigner. Et donc, après ces paroles que Jésus va avoir avec, d'une part, les sadducéens et le scribe, d'autre part, la Bible nous dit, Jésus leva les yeux vers le ciel et dit, Père, l'heure est venue, révèle la gloire de ton Fils, afin que ton Fils aussi révèle ta gloire. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Regardez comment Jésus définit la vie éternelle. Peut-être qu'il nous est arrivé d'entendre, d'écouter que la vie éternelle, c'est aller au ciel, c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. La vie éternelle, c'est de faire la rencontre avec ce Dieu qui se révèle en Jésus comme étant le Père, déjà sur cette terre. Et la conséquence de cette rencontre qu'on va faire sur cette terre, c'est d'aller un jour au ciel dans sa présence. On n'est pas sauvé parce que on ira au ciel. Non, on va au ciel parce qu'on est d'abord sauvé sur la terre. Donc Jésus va dire, la vie éternelle que je suis venu donner en offrant ma vie sur la croix, c'est que les hommes et les femmes qui vont reconnaître ce que je suis venu accomplir puissent justement te connaître, toi qui m'as envoyé et moi qui suis ton envoyé. Autrement dit, être sauvé, c'est pas juste dire « j'ai rencontré Jésus », ça c'est le début du commencement, « je marche avec lui », c'est toujours le commencement. Jésus dit « le but déjà sur la terre, c'est d'apprendre à connaître Dieu ». D'apprendre à connaître Dieu, d'apprendre à connaître Jésus. Alors vous allez me dire, ben Ulrich, c'est peut-être plus simple pour Jésus parce que nous avons des écrits dans les évangiles qui nous disent ce que Jésus a fait, comment il a été conçu, comment il est né, comment il a travaillé au milieu de sa génération lorsqu'il était physiquement sur la terre. Vous allez me dire, ben lui, au moins de Jésus, on sait pas mal de choses. Mais Dieu, on ne l'a jamais vu. Personne ne l'a jamais vu. Alors comment peut-on faire pour connaître un tel Dieu que nous ne voyons pas, que nous n'avons jamais vu et que nous ne verrons peut-être jamais avec nos yeux physiques sur la terre? Donc c'est là où on se pose des questions, on se dit, mais comment faire? Jésus nous dit, il faut connaître ce Dieu. Mais en fait, quand on regarde dans la Bible, on se rend compte, ni plus ni moins, que ce Dieu-là, en fait, se révèle au fur et à mesure. En fait, ce qu'il dit dans la Bible, lui concernant, c'est une façon de nous apprendre de lui, de nous apprendre qui il est, de nous mettre au courant de comment est-ce que lui fonctionne, de nous dire un peu ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Autrement dit, vous vous rendez compte que lorsque Jésus parle de connaître Dieu, Jésus est en train de nous dire de façon implicite que nous devons avoir une relation intime avec Dieu. Vous avez remarqué que lorsqu'il est question de connaître quelqu'un, mais il est question d'avoir une relation. Quand je dis une relation intime, ça n'a rien à voir avec une relation d'ordre sexuel. Non, ça dit une relation profonde, une relation véritable, pas une relation superficielle. Donc Jésus nous dit, si vous ne connaissez pas Dieu, en fait, vous n'allez pas déjà sur la terre entrer dans le must de la vie éternelle. Vous allez comme être des hommes et des femmes qui bénéficient de cette vie éternelle, mais qui ne vont pas en jouir pleinement. Vous savez, c'est dommage d'avoir faim à l'extérieur de sa maison et de savoir que nous avons un bon buffet dans la maison, mais nous ne pouvons pas y accéder parce que nous avons oublié les clés quelque part. C'est dommage, hein? Et quelquefois, on est comme ça. Alors que Jésus nous invite à la fête, alors que Jésus nous dit, mais vous avez le droit d'entrer, et là, nous, on est dehors parce que on ne sait pas, peut-être, comment faire pour entrer, alors que lui nous dit, pour entrer, il suffit d'apprendre à connaître le Père. Quand vous connaissez Dieu, vous commencez à rentrer dans une intimité de cœur avec Dieu. Vous commencez à le connaître. Il commence à se révéler à vous. C'est pour cette raison que la première chose que nous apprenons dans la relation avec Dieu, c'est connaître Dieu. Et vous allez voir que lorsque nous apprenons à connaître Dieu, cela va nous amener sur le deuxième point que nous allons voir, c'est de nous connaître nous-mêmes. Parce que dès lors qu'on ne connaît pas Dieu, on a du mal à se connaître soi-même. On a du mal à savoir véritablement qui on est. Et on va rester toute sa vie dans les questions d'ordre existentiel. En disant, mais qui suis-je vraiment? Je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas pourquoi je passe par là. Mais il n'y a rien qui marche dans ma vie. Tout le monde se moque de moi. Il n'y a personne qui me calcule. Je suis malheureux, je suis malheureuse. Quand je viens au groupe de jeunes, mais il n'y a même personne qui me regarde quand je rentre. J'ai beau claquer avec mes talons. Et là, il n'y a personne. Je comprends rien. Je suis invisible. Même quand je mets la cape de Superman, on ne me voit toujours pas. Non, Batman plutôt. Voyez, on se pose tout ce genre de questions. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une relation avec celui qui nous révèle au fur et à mesure ce que nous sommes, ce qu'il est, qui il est d'abord, et ce que finalement nous sommes en lui. C'est ça le secret. C'est pour ça que Jésus dit non. La vie éternelle, c'est de connaître d'abord Dieu. Et quand il parle de connaître, il n'est pas question d'avoir une idée, une vague idée de Dieu. Non, il n'est pas question de cela. Vous savez, cet après-midi, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un. Je lui ai dit, mais madame, dites-moi un peu. Vous, votre, quelle est l'expérience que vous avez de Dieu? Une femme de la cinquantaine, je lui ai dit, mais quelle expérience vous avez avec Dieu? Elle me dit, bon, mais moi, je sais que Dieu, il existe. Je lui ai dit, c'est bien, c'est un bon début déjà. C'est pas mal. Je lui ai dit, alors? Et ensuite, elle me dit, eh bien oui, mais je sais que Dieu est là pour nous montrer le chemin. Je dis, ok, c'est bien encore. Je dis, et vous? Je dis, ça, c'est des choses que tout le monde peut apprendre. On peut nous apprendre, on peut nous enseigner que Dieu existe. C'est le cas pour chacun d'entre nous ici. On nous a enseigné que Dieu existe. Avant de faire une expérience, on nous l'a enseigné. On nous a aussi dit que Dieu est là pour nous aider à nous faire marcher sur le chemin du bien. On nous l'a dit aussi. Et j'ai demandé à la dame, mais vous, quelle est l'expérience que vous avez de Dieu? Et là, ça a coincé. Parce qu'elle sait tout de Dieu par procuration. Ce que je veux dire, c'est que elle, tout ce qu'elle sait de Dieu, c'est ce qu'on lui a dit sur Dieu. Mais elle ne sait rien de Dieu qu'elle a appris de Dieu lui-même dans une relation qu'elle a nouée avec lui. C'est deux choses différentes. C'est une chose de connaître un auteur par une œuvre qu'il a écrite, un roman. Mais ça n'est une autre de rencontrer l'auteur et de discuter avec lui. C'est pas deux expériences de la même nature. C'est deux choses complètement différentes. Il y en a une qui va avoir une connaissance théorique, une connaissance qui va se faire de l'auteur par rapport à son bouquin qu'il a lu. Mais il y en a l'autre qui va se faire une opinion de l'auteur parce qu'il l'a rencontré personnellement, parce qu'il a discuté avec la personne, parce qu'il lui a demandé ce qu'il voulait dire exactement dans son livre. Donc c'est deux choses complètement différentes. Il y a une connaissance théorique qu'on va se faire par rapport à ce que nous avons lu ou par rapport à ce que nous aurons entendu d'un auteur. Mais il y a une connaissance pratique qui va naître de la relation que nous allons avoir avec l'auteur. Lui va nous dire directement ce qu'il a voulu dire en écrivant, par exemple, « Nathanaël a un pantalon, c'est quoi ta couleur là ?» Je ne sais même pas. Vous ne moquez pas, je n'ai pas fait la maternelle, donc je ne connais pas les couleurs, moi. Ça, c'est quelle couleur? C'est orange? Non. Hein? Allez les filles, vous êtes douées aux couleurs, pour les couleurs là. Allez, un quiz. C'est l'orange? Ah, si c'est orange, ça veut dire que j'avance tout doucement sur les couleurs maintenant. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que c'est de la relation que nous avons avec Dieu que nous allons apprendre à le connaître. Et que nous allons, dans un deuxième temps, apprendre à nous connaître nous-mêmes. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés. Parce que c'est lui qui nous a fait. Et parce qu'il en est ainsi, et donc c'est grâce à lui que nous allons apprendre qui il est et qui nous sommes. C'est pour cette raison que Jésus dit, le salut ce n'est pas d'abord aller au ciel. Non, ça c'est la conséquence. Le salut c'est de connaître, d'apprendre à connaître Dieu sur la terre. Et c'est ce que Jésus va répéter aussi dans les paroles qui suivent dans l'évangile de Marc. Il va nous dire, mais c'est quoi connaître Dieu en fait? C'est quoi connaître Dieu? C'est Jésus qui parle. Au verset 30, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Oui, ça va. Là, personne ne voit. Hein. Quand on aime avec son cœur, personne ne voit. De toute ton âme, là, ça va encore, personne ne voit. De toute ta pensée, quand je pense, personne ne peut détecter ce que je pense. De toute ta force. Et là, tu es coincé. Bah oui, parce que la force, ça veut dire il faut que tu démontres que tu aimes Dieu. Ah oui, tu vas dire, mais moi j'aime Dieu, c'est dans mon cœur, c'est une histoire de cœur. Oui, il n'y a pas de souci. Oh, c'est une histoire, c'est dans mon âme, j'aime Dieu. Ok, je pense à Dieu tout le temps. Il n'y a pas de souci. Mais je ne vois pas la démonstration de ton amour pour Dieu dans ton cœur, dans ton âme et dans ta pensée. C'est ce qui va te caractériser. Dieu a besoin de voir cela. Non pas parce que il ne le sait pas, il le sait déjà, mais il a besoin pour que les autres qui sont autour de toi, sache que tu es véritablement attaché à Dieu. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et là, tu dis, super, parce que moi, je n'ai à aimer que Dieu. Ah, Seigneur Jésus. Mais pourquoi tu as poursuivi dans le verset 31 en disant, voici le deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme... Ah, c'est dur, hein. Ah, c'est dur, hein. Déjà qu'on a du mal à prêter nos meilleures chaussures. Voyez, si maintenant on doit aimer les autres comme soi-même, alors que nos nouvelles godasses, on n'a pas envie de les prêter, hein. Là, il nous demande trop quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, non? C'est quand même trop, là. Il met la barre trop, là, hein. Ok, Seigneur, toi, je t'aime, ok, c'est bon. Mais pourquoi tu me dis d'aimer l'autre comme moi-même? Et il dit qu'il n'y a pas de plus, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Regardez. Connaître Dieu, c'est apprendre à aimer Dieu tel qu'il est. C'est la même chose dans le domaine naturel. Quand on apprend à connaître quelqu'un, si on n'aime pas la personne telle qu'elle est, on va arrêter de vouloir la connaître. Il y a de l'expérience, hein? On va arrêter. Une relation avec Dieu, c'est apprendre à aimer Dieu pour qui il est, tel que lui se révèle à nous. Non pas comme nous l'imaginons, non pas selon l'idée que nous nous faisons de lui, non pas selon, le scénario que nous avons tracé dans notre chambre, en disant, moi je vais à la réunion des jeunes, maintenant Dieu, si tu ne fais pas les choses comme ça, ah ben Dieu t'aura beau le menacer, mais bon, il est Dieu. Hein. C'est dur de le faire bouger quand il n'a pas envie. Hein. Tu dois aimer le Seigneur. Jésus dit, ce n'est pas négociable. Parce qu'en fait, ce que vous allez remarquer, c'est que plus on passe du temps avec quelqu'un, on finit par l'apprécier toujours. Ce qui paraissait comme étant des défauts au début de votre rencontre finit par devenir des choses que vous tolérez, que vous acceptez, et vous devenez aveugle. Vous devenez aveugle au fur et à mesure, dans le bon sens du terme, en disant, ça dit, il y a des choses sur lesquelles vous ne vous arrêtez plus, alors qu'au départ, c'est des choses qui vous rebutaient, vous dites, oh, mais c'est pas possible, mais pourquoi tu fais comme ça? Mais je comprends pas, tu es toujours en train de faire le travers de ce que je te dis. Mais parce que vous apprenez, au fur et à mesure que vous apprenez à connaître la personne, vous l'aimez. Vous l'aimez. Et quand vous aimez quelqu'un, vous commencez à devenir dépendant de la personne aussi. Ce n'est pas mauvais de dépendre, non. Il y a une interdépendance, c'est-à-dire vous dépendez l'un de l'autre. Dieu ne peut pas dépendre de nous, mais nous allons toujours dépendre de Dieu. En ce moment-là, parce que nous aimons Dieu, nous allons dépendre de lui, c'est-à-dire que nous allons aimer sa présence. Quand on aime quelqu'un, on a envie d'être avec lui ou non. Eh oui, hein, là on n'est pas sur Facebook, là c'est le vrai, là. Eh bien oui. Là, c'est pas Facebook, on fait ce qu'on a envie, bon, à distance, ok. Non, quand on aime quelqu'un, on a envie d'être avec. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer les choses de Dieu, oui ou non? Si tu aimes Dieu, tu vas aimer aussi les gens qui aiment Dieu. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer aussi les gens que Dieu aime. Tu ne peux pas dire, Dieu, je t'aime, mais je ne peux pas aimer mon prochain, non. Dieu te dit, si tu m'aimes, tu vas aimer ton prochain. C'est pour cette raison que Dieu a dit à Jacques, dis aux hommes de ta génération et à toutes celles qui suivront, que si quelqu'un ose dire qu'il m'aime, moi, Dieu, alors qu'il ne me voit pas de ses yeux, alors que cette personne est son frère ou sa sœur, il dit, cette personne-là est une personne qui tue les gens, c'est-à-dire avec son cœur, c'est-à-dire c'est un meurtrier. Comment peux-tu dire tu aimes Dieu que tu ne vois pas, alors que tu es incapable d'aimer ton frère, tu es incapable d'aimer ta sœur, tu es incapable d'aimer ton prochain, et tu dis que tu aimes Dieu? Dieu dit ce n'est pas possible, parce que quiconque même va finir par aimer aussi les autres. C'est pour cette raison que ces deux commandements sont liés. Dès lors que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, tu aimeras aussi ton prochain comme... Ah! Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Hein, les filles? C'est Dieu qui nous dit ces choses. Il n'y a pas d'âge pour ça. Vous avez remarqué que dès qu'on vient au monde, on sait manifester de l'amour à sa façon peut-être. Et plus on grandit, on manifeste encore, voilà, de différentes manières. Vous savez, s'il y a une chose que tout le monde aime sur la terre, même les méchants, ils aiment qu'on les aime. C'est quand même bizarre, hein? Normalement, ils devaient s'attendre à quoi, les méchants? Donc on les déteste, qu'on soit méchant avec eux. Mais les méchants aiment, veulent quand même, ils veulent être aimés. Ça, c'est paradoxal. Pourquoi? Parce que l'amour, ça, c'est toujours super d'être aimé. Il y a personne qui va dire, ah non, s'il vous plaît, cette semaine, j'ai pas envie qu'on m'aime. Personne ne fait ça. Ah non, 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 mais je te dis, non, 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 hey, mais écoute, t'es ma copine, je t'apprécie énormément. Tu m'as donné tellement d'amour la semaine dernière, mais cette semaine, je t'en prie, j'ai pas besoin de ton amour. Ne m'aime surtout pas. Déteste-moi un peu. Personne ne fait ça. Parce que nous sommes tous des hommes et des femmes qui aimons être aimés. Nous aimons cela. Parce que l'amour, c'est la nature de Dieu. Cette relation nous apprend à connaître Dieu. Nous devons la nouer, avoir, quel que soit l'âge. Et cela ne dépend pas de Dieu seulement. Parce que Dieu est toujours prêt, dès lors que nous prenons conscience que nous devons avoir une relation avec lui. Dieu est toujours prêt. Ce n'est pas Dieu qui va venir. Non, comme je disais tout à l'heure, j'ai dit c'est notre soif qui va déterminer les choses. Dieu est toujours prêt. Vous savez, je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vécu. Vous vivez dans une maison. Ah ben en fait, vous cohabitez. Mais vraiment de la vraie cohabitation, quoi. Ça dit que ben vous faites, vous vous croisez, hein, quand il y en a un qui va dans la cuisine, eh ben l'autre vient du salon, vous vous croisez quoi? Vous ne vous parlez pas? Eh oui, ça peut arriver ça. C'est de la cohabitation. Pourtant vous habitez dans la même maison, vous vivez sous le même toit, mais vous ne vous parlez pas, vous ne communiquez pas, vous ne partagez rien. Chacun prend sa voiture le matin rond et puis va au boulot. Et puis le soir quand on arrive, chacun a son bout de table, chacun mange sa petite salade. Sa petite soupe aussi. La soupe aux poireaux, c'est pas mauvais. Hein? Et il y en a qui sont comme ça avec Dieu. Oh non, mais moi, Dieu, je sais qu'il est avec moi. Ça me suffit, moi. Il est avec moi. Ah, mais c'est bon. J'ai pas besoin de lui parler. Non, j'ai pas besoin de le louer. J'ai pas besoin de l'adorer. Mais je sais qu'il est là, Dieu. Et Dieu sait aussi que je suis là. C'est bon. L'un et l'autre, on sait qu'on est là, on est ensemble. C'est bon, ça suffit. Mais Dieu dit non, je t'ai créé pour que tu aies une relation avec moi. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a créés. Ce n'est pas pour que nous soyons d'abord ingénieurs. Non, Dieu nous a créés pour que nous ayons une relation avec lui. Et vous allez remarquer que ce qui fait souvent mal aux parents, lorsque les enfants grandissent et sont sur le point de quitter le foyer familial, c'est quoi? C'est qu'ils ont peur qu'il y ait ce vide-là, oui ou non. Parce que le vide, ça dit que le vide va installer quoi? L'absence de relation qu'il y avait là. Ce ne sera plus la même nature de relation qu'il va y avoir. Parce que l'enfant sera parti, et bien voilà, peut-être ce sera juste un coup de fil, voilà, de temps en temps. Alors que quand l'enfant est là, on aime bien être dans sa présence. Et Dieu, ce qu'il aime beaucoup, c'est que vous soyez, que vous aimiez sa présence. Parce que quand on aime quelqu'un, on aime être avec la personne, comme je l'ai dit. Parce que Dieu est celui qui aime que l'on soit auprès de lui, avec lui. Parce que sans une relation avec Dieu, tout ce que nous faisons, c'est de la religion. Vous savez, la religion a ceci de particulier. C'est que vous voyez les gens, ils sont tellement beaux à l'extérieur, ils sont sapés. Oh là là, quand vous les voyez. Et en général, ils font quoi? Ils sont dimanche. C'est pour ça qu'il y a ce terme, parce que les religieux, à l'époque, les religions, les gens, ils étaient très bien habillés le dimanche. Quand ils arrivaient même devant le curé qui lui avait tout le temps sa soutane, ils se disaient, waouh, dis donc, qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'elles sont belles. Mais le problème, c'est que dedans, ça ne sentait pas bon. Et deux religieux sont capables de s'asseoir côte à côte. Ils vont assister à la même réunion, du début à la fin. Et ils vont se lever. Chacun va aller de son côté. Parce que le religieux est comme ça. Il ne s'inquiète pas. Il ne se soucie pas de ce que Dieu pense de lui. Non. Lui, il se soucie essentiellement de ce que lui vient faire. Parce qu'il se dit, je viens rendre un service à Dieu. Attends, je viens quand même à l'église. Ah, je lui fais plaisir. C'est bon déjà, quoi. Oh. Mais non, s'il faut que je sois bien, cool, avec ma voisine, avec mon voisin, c'est quoi cette histoire? Mais non, c'est bien déjà que je vienne à la réunion. Mais non, Dieu te dit, si tu viens à la réunion pour lui, tu auras dans ton cœur le désir d'être aussi bien avec ton voisin ou avec ta voisine. C'est comme ça que ça marche avec Dieu. Et j'aimerais prendre un exemple pour terminer. Vous connaissez tous David? Qui s'appelle David ici? Bon. Mal barré pour toi, mon gars. Si tu as des bouts de caisse, tu peux te les mettre dans les oreilles, hein, parce que ça va chauffer là. Je vais dire du mal de David maintenant. David, comme vous connaissez son histoire, c'était un jeune berger. Et ce jeune berger David avait cette particularité, c'est qu'il était fidèle à son père naturel. Il avait sept frères aînés, c'est tous des sapeurs. Ils s'habillaient, et vous savez, ils se mettaient voilà, dans la ville comme ça, très beau, bien habillé, et ils ne faisaient rien. C'est David qui se tapait tout le boulot, quoi, en fait. C'est lui qui, tout le temps, allait s'occuper des brebis, des bêtes, du troupeau de son père, alors que ses frères aînés, oh, de temps en temps, quand il y avait des crises en Israël, qu'il y avait des guerres, il y a les aînés, les trois aînés qui allaient à la guerre, mais c'était toujours à David de s'occuper des brebis de son père, de leur père du moins. Et un jour, David va être envoyé par leur père, alors que les trois frères aînés de David vont être à la guerre auprès du roi Saül, leur père Isaïe va demander à David justement d'apporter un peu de nourriture et d'aller s'enquérir justement de la situation auprès de ses frères aînés. Et là, David va arriver et puis ses frères vont être étonnés. Ils vont lui dire, ben oui, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Toi, tu es curieux, tu viens, tu n'as pas le droit, tu es encore jeune. Il avait 17 ans, 17-18 ans. Et puis il arrive et puis David, il se rend compte que face à l'armée d'Israël, il y a une armée qu'on appelle l'armée des Philistins. Et il y a un Philistin que vous connaissez tous. Comment il s'appelle? Voilà. Eh bien lui, il narguait l'armée d'Israël en disant, mais pas besoin de combattre armée contre armée. Envoyez-moi juste un homme du côté d'Israël qui va m'affronter et celui qui en sortira vainqueur va assujettir tout le peuple adverse. Oh. Et puis là, pendant 40 jours, la Bible nous dit, l'armée d'Israël, à chaque fois que Goliath approchait, mais le roi Saül et toute l'armée avaient peur. Il n'y a personne qui osait s'avancer pour combattre Goliath. Et là, quand David va arriver, justement pour s'enquérir de la situation, il va prendre, il va s'informer, il va dire, mais que se passe-t-il? Et là, il va entendre Goliath qui est en train de narguer l'armée d'Israël. Et David va dire, mais c'est pas possible. Comment est-ce que cet homme qui ne connaît pas Dieu peut insulter l'armée du Dieu vivant, du Dieu d'Israël? Et il va prendre la décision, il va dire, moi je vais le combattre. Et vous savez, David va le combattre, lui il ne connaissait pas la guerre, il ne connaissait pas l'armée, et le roi Saül va vouloir prêter à David son armure pour dire, ben, écoute, vas-y, protège-toi quand même, gamin, tu n'es pas habitué, tu ne connais rien à la guerre, mais si tu y vas comme ça à découvert, le gars, il va faire de toi une bouchée double, quoi. Et bien là, ben, David, il va essayer l'armure du roi Saül, et il va dire, moi je ne suis pas à l'aise, allez, il va enlever ça, il va balancer, il va dire, ah non, non, moi je ne suis pas à l'aise. Moi, j'ai ma fronde, il suffit de ramasser quelques pierres et puis c'est bon. Ah oui. Et vous connaissez l'histoire. C'est comme ça qu'il va avoir raison de Goliath. Mais c'est bien de penser à ce David-là. C'est bien d'avoir cette image de ce David-là. Mais il ne faut pas oublier d'où il vient, David. David, ce n'est pas quelqu'un qui avait une place importante dans sa famille. Comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui était presque méprisé. Mais comment on sait que David était presque méprisé? Mais c'est au moment où justement David, où le roi Saül, parce qu'il va être déchu de Dieu, il va envoyer le prophète Samuel dans le village de David, à Bethléem, pour dire, vas-y, tu vas choisir un roi à Bethléem auprès des fils d'Isaïe, auprès du père de David, des fils du père de David, donc. Et lorsque le prophète Samuel va arriver, il va voir le fils aîné d'Isaïe, Eliab. Il va dire, oh là là, quand il a vu les pectoraux, il va dire, ah oui. Le gars, il avait les tablettes de chocolat, il dit, ah waouh. Ça, c'est le futur roi d'Israël. Et Dieu de lui dire, ah, écoute, mon gars, tu viens de te gourer, là. Hein? Comment ça? Je suis le prophète Samuel. Eh bien, oui, tu t'es quand même gouré. Mais comment je me suis gouré? Il dit, parce que toi, tu es intéressé par l'aspect extérieur. Il dit, mais moi, je connais les cœurs. Le problème, c'est que quand je fais un choix, je ne regarde pas d'abord l'aspect extérieur. Il dit, je regarde d'abord au cœur. Il dit, quand je regarde le cœur d'Eliab, ce n'est pas un cœur qui peut supporter la charge du roi d'Israël. Alors, moi, je le rejette. Et Samuel a été surpris que tous les 7 frères aînés de David ont été ainsi rejetés par Dieu. Et là, il est embêté. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque Samuel est arrivé à Bethléem, il a demandé à Isaïe, c'est-à-dire de se préparer avec tous ses fils. Mais remarquez que Isaïe n'a même pas pensé à David. Il aurait pu dire, ben écoutez, allez-y, appelez votre frère. Non, il n'a pas pensé à lui, il a demandé aux 7 frères aînés, parce que David ne comptait pas. Il ne valait rien. C'était lui, le petit bouseux, qui devait s'occuper des bêtes. Et là, Samuel est embêté parce que les 7 fils aînés qui se sont présentés avec leur père Isaïe n'ont pas été choisis par Dieu pour prendre la succession de Saül. Et là, il est embêté. Et là, il pose une question à Isaïe en disant, est-ce que ce sont là tous tes fils? Et vous savez comment Isaïe va répondre? Oh, il y a le petit dernier là. Il est dans les champs en train de paître le troupeau. Et là, Dieu de dire à Samuel, c'est lui, allez le chercher. C'est lui que je veux. Alors, c'est lui que je veux, allez le chercher. David n'avait pas été calculé. Même son père ne l'a pas calculé. Ses frères non plus ne l'ont pas calculé. Samuel non plus. Encore que Samuel ne savait pas qu'il existait, David. Et lorsque David va arriver avec l'odeur de la bouse, Dieu va dire, c'est lui que j'ai choisi comme roi, futur roi d'Israël. Oins-le, c'est-à-dire, choisis-le de ma part. Et la Bible nous dit que quand Dieu a ainsi choisi David, depuis ce jour, l'Esprit de Dieu était sur David jusque dans la suite. Et c'est avec cet esprit que David va arriver justement devant Goliath. Pourquoi? Parce que David va expérimenter ce que Dieu justement a fait dans sa vie. Et c'est ce que David va dire lorsque il va se retrouver devant Goliath et que Saül va craindre pour la vie de David, il va plaindre David. Il pensait, il croyait que David allait être mais complètement avalé par Goliath. Et voici ce que David va dire à Saül. Nous le lisons dans 1 Samuel. Il dit, « C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. » Et ce sera aussi le sort du Philistin, c'est-à-dire de Goliath, de cet incirconcis de cœur, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David ajouta, l'Éternel m'a délivré de la griffe, du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin. Saül dit à David, vas-y donc, et que l'Éternel soit avec toi. Où était venue la force de David? Parce que David s'était rendu compte que dès lors que l'Esprit de Dieu était sur lui, il appartenait désormais à qui? À Dieu. Et lorsqu'il servait pour son père, il savait qu'il ne servait plus que pour son père, il servait également pour qui? Pour Dieu. Et c'est là qu'il a appris. Il a appris à connaître Dieu dans son travail de berger. Il a appris à connaître Dieu dans le boulot qu'il faisait pour toute la famille. Alors qu'il était négligé par toute sa famille, c'est là que David a appris à connaître Dieu. C'est là que David a eu une relation avec Dieu, une relation profonde. Et c'est de cette relation que David va dire au roi Saül, c'est dans cette relation avec Dieu que j'ai appris que celui qui m'a toujours délivré de l'ours, celui qui m'a délivré du lion. C'est parce qu'il avait une relation avec Dieu. Et c'est ce que David va dire. Vous allez comprendre maintenant que David savait que même lorsqu'il était dans les plaines de Bethléem avec les bêtes de son père, il n'était pas tout seul. Et ça, il l'exprime très bien dans le psaume 139. Voici ce que dit David. « Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voix te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà éternelle, tu la connais entièrement. » La suite. « Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. Si je me dis, au moins les ténèbres me couvriront. La nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Regardez ce qu'il a expérimenté. David a expérimenté que finalement, en fait, il n'y a aucun endroit sur cette terre, dans l'univers même, où il pourrait se cacher de Dieu. Il était conscient de la présence de Dieu. C'est ce que je vous disais en introduction. Une relation implique d'être conscient de l'autre. Une relation implique de prendre, conscience que l'autre existe, qu'il y a un vis-à-vis. Si on n'est pas conscient de cela, si on n'est pas conscient de la présence de Dieu, on ne peut pas avoir de relation avec lui. C'est pour cette raison que je vous prenais l'exemple de personnes, deux personnes qui habitent sous le même toit, qui vivent chacune leur vie, qui se croisent, mais sous le même toit, parce que l'une et l'autre ne sont pas conscientes de la présence de l'une et de l'autre. Et donc, David était conscient, il a réalisé cela. Il a dit, il n'y a rien que je puisse faire, que je sois au champ en train de paître le troupeau. Tu es avec moi, tu me vois, tu vois tout ce que je fais. Que je sois avec mes amis à Bethléem, en train de boire un verre, tu me vois. En fait, il n'y a rien que je puisse faire, que tu ne saches. Il n'y a aucun endroit où je pourrais me cacher de toi, Seigneur. Il a pris conscience de Dieu. Et moi, je me rappelle quand je suis arrivé en France. Et puis, je me suis dit, mais quel système permissif. En fait, on pouvait monter dans le bus et il y avait des contrôles de temps en temps. Et puis, je me permettais quelquefois de ne pas acheter le ticket. Et puis, c'est la même année où je me suis converti. Et puis là, il y a un frère aussi qui était un peu converti depuis et puis avant moi. Et puis, bon, qui essayait d'essayer de bien marcher. Et puis là, il me dit, mais tu sais, Ulrich, t'as l'impression que tu gagnes à chaque fois que tu montes dans le bus sans payer et que tu descends sans pour autant subir d'infraction. Je dis, ben ouais, alors. Il me dit, mais est-ce que tu sais que Dieu te voit? Quoi? Je dis, comment il me voit? Il est au ciel. Il ne peut pas me voir, Dieu. Il me dit, ben non. Mais parce que je ne connaissais pas la parole, je ne connaissais rien. Je ne connaissais même pas le texte que je viens de vous lire, là, de David. Et quand il a pris quand même le temps de m'expliquer avec ses mots, je me suis dit, mais finalement, c'est vrai. Si Dieu voit tout, si Dieu sait tout, si Dieu est partout, alors est-ce qu'il y a quelque chose que je peux cacher à Dieu? Est-ce qu'il y a des paroles, même lorsque je suis en train de dire du mal d'une copine avec une autre copine, est-ce que cela est caché à la copine? Oui, mais est-ce que cela est caché à Dieu? Non! Donc la relation avec Dieu, c'est premièrement prendre conscience de la présence de Dieu. Être conscient que Dieu est partout où je vais. Que partout où je vais, dès lors que j'ai accepté Dieu, dès lors que je suis engagé avec Jésus, partout où je vais, Dieu est avec moi. Dieu est partout avec moi. Il entend ce que je dis, il voit ce que je fais. À partir de ce moment-là, tu commences par savoir qui est véritablement Dieu. tu rentres dans une véritable relation avec Dieu. David savait qu'il n'y a aucun endroit. C'est pour cette raison que Dieu a dit de David qu'il était un homme selon son cœur. Parce que David, lorsqu'il commettait de bêtises, par exemple, lorsqu'il fautait, David, tout de suite, il courait pas se cacher comme Adam et Ève ont fait, en disant, ben là, on a fauté, ah chérie, là, il faut qu'on trouve vite un buisson. Il croyait que Dieu n'allait pas les trouver. Oh mais non, derrière le buisson. Non, celui-ci, c'est pas le meilleur, il faut un plus haut là, parce que sinon Dieu, il est tellement grand, il va nous voir de loin. Et non, cherchons un bon buisson. Eh ben non, il y a aucun endroit où on peut se cacher que Dieu ne nous voit. David, dès qu'il avait fauté, la première chose, le réflexe qu'il avait, c'est de faire quoi? De courir vers Dieu. Il se met tout de suite à genoux, il dit, je sais, j'ai encore fait n'importe quoi, j'ai fauté, parce que je sais que tu l'as vu. Nul besoin de te le cacher, je viens te le dire déjà moi-même. Parce qu'il était conscient de la présence de Dieu. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui a eu une vie facile. Quand on lit son histoire, on se rend compte que c'est quelqu'un qui n'avait pas la côte dans sa famille. C'est celui qui était dans les champs. David aurait pu développer tous les complexes. Ça se trouve, il en avait. Lorsque David est venu, lorsqu'il a eu raison de Goliath, la Bible nous dit qu'il avait entre 17 et 18 ans. Mais David était un homme selon le cœur de Dieu. Il savait qu'il n'y a aucun endroit dans cet univers où il pourrait se cacher de Dieu. Et donc David a développé cette relation avec Dieu. Cette relation de proximité où David savait que lorsqu'il avait des ennemis, qu'ils soient visibles ou invisibles, il n'avait pas besoin d'aller se plaindre ou se morfondre quelque part. Il se cachait là dans son lieu secret et il disait à Dieu, j'ai des ennemis, mais je ne sais pas comment m'en défaire. Mais je sais que toi, tu es avec moi. Je sais que toi, tu ne m'abandonnes pas. Alors qu'il est même pourchassé dans le désert d'Israël par le roi déchu, Dieu lui donne une révélation. Il lui dit, écoute mon gars, tu connais que je suis avec toi. Il dit, oui, c'est pour ça que je peux déclarer que tu es mon berger, que je ne manque de rien, que lorsque je passe même par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal parce que tu es là près de moi. Ça dit, ton bâton et ta houlette, ce sont les instruments du berger. Il dit, tu es là avec moi. Je prends conscience que partout où je suis, tu es avec moi. C'est pour cette raison que je n'ai plus envie de mentir, je n'ai plus envie de tromper, je n'ai plus envie d'avoir un masque quand je veux être vrai avec les autres, parce que je sais que quand je suis faux, quand je suis fausse avec les autres, tu le sais, tu sais que je suis hypocrite et que je ne suis pas authentique et que j'ai une cire sur mon visage. Alors Seigneur, donne-moi maintenant un démaquillant divin, afin d'enlever cette cire, parce que je veux être vrai, je veux être un chrétien authentique, je veux être une ado authentique, je veux être un ado authentique, je veux refuser ce que le monde me propose, parce que le monde me dit tu peux être hypocrite, mais toi tu me dis sois authentique mon enfant, sois vrai, parce que quand tu es vrai, tu rentres dans une relation véritable avec moi, et c'est là que je te montre que je suis ton Dieu, que je suis ton Père, que je connais les blessures de ton passé, que je connais ce que tu vis aujourd'hui, et je veux que tu en sortes parce que tu es vrai. Mais si tu viens avec un masque devant Dieu, Dieu te dit non. Sois vrai, sois qui tu es, ne sois pas quelqu'un d'autre. Tu peux tromper tout le monde autour de toi, mais moi qui te vois chaque jour, moi qui connais ouais, tout ce que tu fais, David ira jusqu'à dire, Seigneur, tu connais même le nombre de mes cheveux. Si je vous donnais même la petite quantité de miens qui reste sur la tête, vous aurez du mal à finir de les compter d'ici. Je ne sais pas la fin de la semaine, d'ici demain, vous serez encore là à les compter. Mais David dira, tu connais même le nombre de mes cheveux. Dieu, ce qu'il désire, c'est que vous soyez des lumières. N'ayez pas peur. Les gens vont vouloir vous intimider. Les gens vont vouloir vous faire entrer dans des choses, des compromis, pour que vous soyez des filles qui soient dépravées, des garçons qui soient des escrocs, des menteurs. Mais Dieu a une destinée pour vous. David était dans la bouse, mais Dieu avait déjà regardé David du haut des cieux. Alors qu'il est Eliab, Eliab était peut-être le préféré de son père. Mais Dieu dit, non, ce n'est pas Eliab qu'il me faut. Moi, je veux un gars authentique. Je veux un combattant. Je veux un gars qui est vrai, un gars qui est sérieux, un gars qui est fidèle. Lorsque son père lui dit, va t'occuper des brebis, il n'abandonne pas les brebis et il va faire autre chose. Il dit, je veux des David, je veux des hommes comme David, je veux des filles qui ressemblent un peu à David. C'est ça que Dieu veut. Il dit, je veux une relation, je veux des hommes et des femmes dans ce groupe de jeunes, selon mon cœur.
Non, soyez sincère avec Dieu. Dieu connaît les blessures de votre passé. Dieu connaissait la souffrance de David. David aurait pu dire à Dieu, « Oh là là, tu as fait un mauvais choix. Je vois que tu n'es pas un Dieu qui connaît les choses. Tu n'as pas vu que dans ma famille, je ne suis pas quelqu'un de considéré. Tu n'as pas vu que dans la ville, je suis quelqu'un qu'on envoie toujours pour les brebis, pour paître les troupeaux. Tu n'as pas vu que je suis quelqu'un même qui n'a pas la côte auprès de mon père. Regarde, quand tu as demandé de réunir tous ses enfants pour choisir le roi, est-ce qu'il a même pensé à moi ? Non ! C'est seulement parce qu'il était devant le fait accompli. La question que le prophète lui a faite, mais est-ce que ce sont là tous tes fils ? C'est pour cette raison qu'il a dit, mais non, j'ai encore le petit dernier qui est en train de faire paître. Peut-être que c'est ça qu'on dit de toi dans ta famille, dans ta classe. C'est peut-être ça qu'on dit de toi. Moi, je me rappelle, quand j'étais au collège, j'étais en quatrième. Et puis vraiment, je n'aimais pas prendre de douche, mais j'avais une maladie de la peau, je sentais mais vraiment mauvais. Et je vois, il n'y a personne qui s'approchait de moi. Et puis l'année qui suivait, j'étais dans un collège des gars. Et puis l'année qui suivait, on nous a mis les filles au collège, on est devenus fous. On n'avait jamais vu ça. On était habitués entre nous, on sentait mauvais dans une classe des gars. Et puis on n'avait pas de soucis. Et puis il y a eu des filles. Et puis il y avait des bonnes odeurs tout à coup qui sentaient dans la classe. On disait, mais qu'est-ce qui se passe? On n'est pas habitué à ça. Vous l'avez vu comme des fous. Oui. On est devenu fou. On n'avait jamais vu des gens propres. On est devenu dingue. On faisait des choses de fous, de malades, déjantés, juste pour se faire remarquer. On faisait des trucs de malade. Voilà, moi, ma spécialité, c'était pendant les récréations, je rentrais en classe, je volais les crayons de tout le monde. Et quand les gens revenaient en classe, mon son est passé, mes crayons. Et puis moi, j'étais content, je rigolais. Après, je disais, celui-ci est acquis, et celui-ci. Et c'est comme ça que je me faisais remarquer, j'avais mon petit temps de gloire. Mais oui, parce qu'on n'était pas habitués, on était des cancres. Entre nous, on était, voilà. Eh oui, parce qu'il fallait se faire remarquer. Et puis j'avais tous les complexes. J'étais là, j'étais pas propre, je faisais pas partie des beaux gosses, j'avais pas de belles fringues, je venais d'un petit village. Voilà, je portais des chaussures en plastique quelquefois, alors que les gars de la ville, ils avaient des Nike, ils avaient toutes les marques, les Reebok, les choses comme ça, les Puma. Et puis moi, j'avais rien, et puis j'arrivais. Non seulement tu sens mauvais, tu es mal, tu n'as pas de belles fringues. À la limite, si tu sens un peu mauvais, que tu as des belles fringues, les gens peuvent dire, ah, mais dis donc, il est bien fringué. En attendant que les gens s'approchent de toi pour dire, oula, il a beau avoir des belles fringues, mais bon. Oui, mais rien de tout ça, j'avais rien de tout ça. Et il fallait jouer le cancre, et je me retrouvais à chaque fois être exclu. 3 jours. Oui, j'étais exclu 3 jours, et puis j'étais content. Et puis j'allais entuber tout le monde chez moi en disant, mais non, on est en vacances. Parce qu'il y avait des complexes. Ben oui, on voulait jouer l'intéressant, on voulait que les filles nous regardent. Mais non, moi ça ne marchait pas. C'est complexe. Et finalement, quand je suis allé à l'université, oui, je suis devenu quelqu'un, presque un objet sexuel. Oui, ben oui, c'est ça, parce que je voulais me rattraper. Je disais, ah bon, là, je suis à l'université, j'avais maintenant des parfums. Ah ouais, j'avais des déodorants pour masquer. Et oui, je suis devenu fou, voilà, maintenant j'allais tout le temps. C'était mon boulot, j'allais en ville, je quittais le campus, j'allais en ville juste pour, voilà, les filles, c'était ça, c'était devenu mon boulot. Pourquoi ? Parce que j'ai eu des frustrations, parce que j'ai été quelqu'un qui était là, qui a souffert lorsque j'étais ado, parce que j'étais pas quelqu'un qu'on regardait, j'étais pas quelqu'un pour qui on avait de la considération. Et puis quand j'étais déjà en quatrième, je pouvais déjà arriver bourré à l'école. Oui, j'étais saoul, parce que j'avais envie de faire le bad boy si ça marchait pas. J'étais pas beau gosse, j'étais pas bien habillé. Ben alors, bad boy, ça au moins, ça peut se faire, quoi. Alors, ben, je faisais comme les gens les plus âgés du collège ou bien du lycée, et puis j'allais boire avec eux, et puis j'arrivais, j'étais bourré. Parce qu'il y avait de la souffrance. Et je ne connaissais pas Dieu à cette époque-là. Peut-être qu'il y a des malaises comme ça. Il y a des souffrances. Et vous vous dites, comment je vais m'en sortir? Mais moi, j'aimerais vous donner un conseil ce soir, avant d'aller voir le psy. Peut-être que vous devez d'abord voir celui qui a créé le psy.
Peut-être que Dieu a la réponse. Et je ne dirai même pas peut-être, je sais qu'il a la réponse. Parce que vous savez, si vous n'avez pas réglé votre passé, comme je disais, vous allez avoir du mal à avoir une véritable relation avec Dieu. Parce qu'il y a des choses qui vont vous freiner. Oh, je ne veux pas être plus long. Je ne vais pas aller plus loin. Mais simplement pour vous dire, je vous donne ces bribes de mon témoignage pour vous dire, on peut être malheureux au-dedans de soi. Oh, j'étais pas si mauvais que ça à l'école. Heureusement, il y avait quand même un truc qui m'aidait. C'est que ouais, j'étais un peu intelligent. Et ça va, quoi. C'était la seule chose qui me soulageait. Vous imaginez? Si j'étais aussi mauvais. David, quand tout le monde pense à David, tout de suite on pense aux exploits de David. Mais on oublie d'où Dieu est allé le chercher. Dans quelles circonstances? Et c'est ça que j'aimerais laisser sur le cœur de chacun d'entre nous ce soir. En disant, David, avant de devenir le héros que nous connaissons, il a d'abord été l'homme méprisé, l'homme négligé, l'homme à tout faire. Mais il n'a jamais bronché. Il est resté fidèle à ce Dieu. Et parce qu'il est resté fidèle à Dieu, Dieu a vu que David avait le cœur qualifié pour être le roi d'Israël. C'est comme ça qu'il va le choisir. Ce n'était pas le plus fort. Il peut avoir des complexes. Au moment où on m'appelait, j'étais rond, petit, bouboule. J'ai dit, ah ok. Mais j'étais bon en maths. Faites des efforts en maths, les gens vont vous respecter. Je vous dis ça parce que non, vous savez, c'est simple, c'est facile de dire, oh, ben, tu sais, maintenant j'ai réussi mes études. Eh oui, mais c'est quand même mieux que vous sachiez un peu par où on est passé aussi. C'est pas le passage, c'est pas le chemin que tout le monde emprunte. Mais je vous dis, mais oui, parce qu'on peut être touché, on peut être malheureux au-dedans de soi, et on peut venir faire semblant, mais ça marche pas avec Dieu. Parce que Dieu va toujours te dire, dis-moi ce qui ne va pas. Oh Seigneur, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien, c'est une phrase bateau. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu ne sens pas? Dis-le-moi. Dis, Seigneur, je souffre de mon image. Parce que tout le monde, dis-le-lui. Parce que lui va faire quoi? Il va venir mettre quoi? Le repos et la paix dans ton cœur. Il va te donner ce que tu as besoin pour pouvoir justement vivre, accepter ton image et aller de l'avant. Non pas la tête comme ça, mais là. Tu les regardes tous dans les yeux en disant oui. Je suis fier de ce que je suis. Et pour être fier de ce qu'on est, il faut avoir une relation avec Dieu parce que c'est lui qui nous rend cette fierté. C'est lui qui a fait passer David du bouseux qu'il était au grand roi d'Israël que nous connaissons. Et même celui qui est notre Messie, vous savez comment on l'appelle de temps en temps? Le fils de David. Respect. On ne dit pas le fils d'Abraham, non. Le fils de David. Ce n'est pas ton fils. Simplement terminé. Vous savez, j'ai donné une autre direction à mon message. Pendant le temps de louange, je sais que nous sommes là. Je sais que c'est difficile de bousculer les jeunes. Je sais que souvent, les jeunes sont irascibles, ils sont là, ils montrent que oui, tout va bien. Mais je sais aussi que si j'étais une petite souris, je me faufilerais dans vos chambres. Et je verrai que votre literie est remplie de grosses taches d'eau comme ça. Pas d'eau, mais de larmes. Parce que je sais que vous pleurez. Parce que je sais qu'il y a de la souffrance. Parce que je sais que vous avez besoin de rentrer dans cette relation profonde avec Dieu. Vous avez besoin de rentrer dans cette connaissance intime avec Dieu pour pouvoir justement vous découvrir vous-même. Et cela va vous permettre de rentrer, d'avoir une meilleure image de vous-même et d'aimer les autres sans complexe. Et d'aimer votre prochain comme vous-même. Parce que si vous avez du mal à vous aimer vous-même, vous n'allez pas pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Il vous sera difficile. Parce que à chaque fois que vous serez en face de quelqu'un, vous penserez toujours que la personne qui est en face de vous est en train de penser à vos défauts. Mais si Dieu vient et vous donne le repos, la paix et la joie, et vous donne la satisfaction d'être ce que vous êtes en lui, en ce moment-là, vous vous découvrez vous-même. Parce que vous connaissez le Dieu d'amour qui vous aime tel que vous êtes, et à partir de ce moment, vous pouvez aimer les autres, vous pouvez aimer tous ceux et toutes celles qui vous entourent, et vous pouvez même aimer vos collègues qui ne connaissent pas Dieu, parce que vous n'avez plus de complexes. Et même lorsque les complexes vous reviennent, vous savez qui est votre refuge, Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui vous accepte, qui nous accepte tel que nous sommes. lui qui m'a accepté avec ma grosse tête. Il ne m'a pas dit, Ulrich, qu'elle est tellement grosse. Moi, je veux des chrétiens qui ont des têtes bien rondelettes. Pas la tienne, non, elle est énorme, je ne peux pas te supporter en tant que fils de Dieu. Il m'a accepté comme ça, tel que je suis. C'est pour cette raison que lorsque les gens me disent, mais tu as ceci, tu as cela, je dis, oui, je sais, mais lui-même comme ça. Et je l'aime aussi. Alors, pendant ce chant qu'ils vont nous chanter, j'aimerais simplement qu'on puisse se lever. Vraiment, vous, qui avez des difficultés à entrer dans une véritable relation avec Dieu, pour vous connaître vous-même et pouvoir apprécier les autres autour de vous. Si vous êtes là avec des complexes, je vous invite ce soir, pendant ce chant, à vous approcher spontanément. Il n'y a pas de honte, nous sommes entre nous. Et Dieu veut faire une œuvre ce soir. Je vais vous inviter à vous approcher spontanément. Simplement devant, spontanément. Et nous verrons comment Dieu va nous, comment le Saint-Esprit va nous conduire ensuite. Simplement, chantons ensemble avec nos amis.